Bonjour, nous accompagnons dans la rue Marc Le Chuga, le dessinateur de la série Valhalla, série d'albums de bande dessinée scénarisée par Nicolas Potier, paru aux éditions Glénat. Qu'est-ce qui vous fait, Marc, marcher dans la vie ?
La bande dessinée, principalement. La bande dessinée, le dessin, raconter des histoires avec des dessins, raconter des histoires avec des scénaristes, rencontrer des gens qui font de la bande dessinée, voilà. C'est l'essentiel de mes préoccupations en dehors de ma famille, mes enfants, tout ça.
Je pensais que c'était sauver le monde par la recherche médicale.
Ah, vous m'avez bien eu, vous êtes documenté. Eh ben non, je travaille dans la recherche, c'est pas un travail désagréable. J'ai la chance de pouvoir côtoyer des gens intéressants, passionnés aussi, créatifs aussi, d'une certaine manière. Mais moi je suis pas chercheur, je travaille avec des chercheurs qui sont animés de beaucoup d'enthousiasme. Moi c'est mon travail, c'est juste un travail. La BD c'est ma passion, c'est ma vie.
Vous êtes amusé dans l'écriture de votre CV, où tout est normal, faible, moyen.
Ouais, je suis un garçon assez moyen. De manière générale, oui. Oui, j'ai écrit ça parce que j'étais moyen à l'école, j'étais moyen, même moins que moyen en musique. Je suis de taille moyenne, comme vous pouvez le constater. Par contre, en dessin, j'étais moyen plus. Et mes parents ont vu que assez tard, quoi. Ils ont beaucoup insisté pour que je fasse de la musique alors que j'étais pas bon. Et ils ont beaucoup insisté pour que je fasse des études dignes de ce nom alors que j'étais moyen. Voilà. Alors que je me suis débrouillé, j'ai fait ce que j'ai pu. Et puis une fois que j'ai fini, je me suis mis à faire des dessins. Et puis là, bon bah les éditeurs m'ont dit bah t'es moyen, mais on va quand même t'éditer.
Combien de prises de bec avec vos parents ?
Bah pas tellement, parce que écoutez, on peut pas tous être punk, j'aurais pu tout lâcher, me tirer, mais non, bah, j'aime quand même mes parents, même s'ils m'ont pas vraiment encouragé quand j'étais jeune à faire du dessin. Et en fait, bah, ils m'ont quand même permis d'avoir un boulot, de pouvoir manger, par les temps qui courent, je vais pas me plaindre. Mais oui, non, j'ai eu quelques prises de bec, mais pas de rébellion si intense que ça finalement. J'ai obtempéré. Voilà.
Vous avez dit flûte, j'arrête. Flûte à bec.
Ah ouais, alors vous êtes vraiment super bien documenté. Mais où est-ce qu'il a trouvé ça ?
Mais non, on trouve ça facilement.
Ouais, bah j'ai fait de la flûte avec pendant très longtemps. Voilà. Mais si on pouvait ne pas s'étendre sur ce sujet.
Ok, le séjour en Thaïlande non plus ?
Si, ça c'était cool. Bah, là, c'est là où j'ai vraiment commencé à dessiner. Hein. Je savais pas que j'allais raconter ma vie, mais si vous insistez. D'accord.
C'est bien aussi de savoir à qui on a affaire.
Bah en fait, oui, comme j'ai terminé des études d'ingénieur, et après ces études-là, j'ai eu l'opportunité de faire mon service militaire, n'est-ce pas ? Parce que je fais partie de la génération qui était obligé de le faire. J'étais dans les derniers. J'ai pu le faire en tant que coopérant dans un pays étranger, donc à Bangkok, en Thaïlande, dans un laboratoire qui cherchait sur des virus dangereux et tropicaux, dans le laboratoire français de l'Institut de Recherche pour le Développement. Et je vous le donne en mille, je tombe sur un patron qui était fan de bande dessinée et qui m'a dit « Écoute, au labo, t'es pas très bon, t'es assez moyen, mais en dessin, t'es bon, alors ce serait bien que tu nous fasses des dessins. » Donc il m'a dit « Faut que tu exploites ça, il faut que tu continues. » Et en fait, je lui dois beaucoup. Je lui dois beaucoup en termes d'encouragement et de prise de conscience. Il m'a beaucoup aidé. Il s'appelle toujours, il est pas mort, Jean-Paul Gonzalez. Et voilà, donc j'ai dessiné, j'ai fait des BD avec des quelques pages, avec les têtes des gens du labo, tout ça, c'était rigolo.
Vous êtes en train de me dire qu'une partie du budget militaire français est à l'origine de votre...
Je suis en train de vous dire ça, ouais. Je suis en train de vous dire ça, ouais.
C'est pendant ou c'est retour, la première BD ?
Alors c'est au retour, je cherchais du travail et puis alors là j'ai commencé à dessiner plus sérieusement, j'ai commencé à essayer d'apprendre à dessiner déjà, l'anatomie, la perspective, tout ça, tout ce que j'avais pas pu étudier. Mes parents ont quand même fini par me payer quelques cours d'histoire aux Beaux-Arts, des cours de nu notamment, ce qui m'a quand même bien aidé. Et puis j'ai commencé à mettre des dessins sur des sites internet et j'ai été contacté par des scénaristes, par un scénariste en l'occurrence, Jean-Christophe Devenet, avec lequel j'ai signé mon premier contrat chez Soleil, ça devait être en 2009. Ouais, c'est ça, 2009.
Et rapidement, la suite ?
Eh bien, après, après mon premier album qui s'appelle Hong Kong Spirit, j'ai enchaîné avec le tome 2 de Chasseurs de Dragons, qui est tiré de la série animée et du film du même nom. Ensuite, j'ai été contacté par un éditeur de chez Dupuis qui m'a fait rencontrer Nicolas Potier. Et puis, en fait, ce qu'on leur proposait ne leur plaisait pas chez Dupuis. Donc, on a fini par signer chez Glénat pour Valhalla. Voilà. Et donc, Valhalla m'occupe depuis 2013. C'est une bande de vikings qui doit partir de chez eux parce que sur leur petite île volcanique, il y a donc un volcan qui va rentrer en éruption. Et ils doivent chercher un autre endroit pour habiter. Et ils envoient leurs trois meilleurs guerriers chercher cet endroit sur le dernier drakkar. C'est des vikings pas très compétents hein, en tant que vikings. Ils sont ni très belliqueux, ni très bons navigateurs. Et puis, pendant que leurs copains voyagent sur la mer, au village, ils ont une gentille sorcière qui a une sorte de chaudron magique duquel sort une fumée dans laquelle ils peuvent voir les aventures des autres, un peu comme à la télé ou au cinéma. Donc, dans les premiers volumes, ça s'apparente plutôt au cinéma, et puis petit à petit, ça ressemble de plus en plus à la télé, avec tout ce que ça engendre comme accoutumance et tout ce qu'on peut regretter dans la télé. Voilà.
C'est un périple qui nous entraîne en direction du Royaume-Uni, donc on commence par l'Écosse.
C'est ça. C'est assez centré sur la Grande-Bretagne, oui, enfin l'actuelle Grande-Bretagne. Ça commence par l'Écosse, ils atterrissent en Écosse, en pleine guerre des clans, sur une zone inhabitée, mais qui est le théâtre de la guerre, donc il faut qu'ils pacifient le conflit avant de pouvoir emménager. Et bon, voilà. Alors, je vous dis pas la fin, mais a priori, ils n'arrivent pas à s'y implanter. Ils repartent et ils arrivent en Angleterre, et puis ça se termine par l'Irlande.
C'est un voyage qui manque pas d'air. Il y a plein de jeux de mots, des fois à 3 francs 6 sous.
Oui, souvent.
Et des références aussi.
Il y a beaucoup de références.
À la Bible aussi.
Ouais, on s'est fondu de quelques références à la Bible. Ouais, on a réussi à faire ça sans que ce soit trop prosélyte, il me semble. Hein. C'est pas...
On peut passer à côté.
Voilà, je pense qu'on peut passer à côté. C'est pas très évident. Il y a plein de références pas évidentes. C'est-à-dire que ce sont, à mon avis, des albums qui vont être lus par n'importe qui, par des petits, par des grands. Les petits vont passer à côté de pas mal de références, c'est normal, mais ils vont quand même pouvoir suivre l'aventure. Et puis les grands, j'espère, riront et seront contents de retrouver des références au cinéma et des jeux de mots en voiture voilà, comme le scénariste Nicolas Potier, Un bal secret.
Qu'est-ce qui vous a fait accepter ce scénario ?
Alors, je connaissais la série précédente, enfin la série qui continue d'ailleurs, de Nicolas Potier qui s'appelle Ratafia, que j'appréciais beaucoup. C'était aussi l'opportunité pour moi de rentrer chez Glénat. J'aime beaucoup la ligne éditoriale de Glénat. Gros éditeur en plus. C'était un peu inespéré pour un autodidacte comme moi. Et puis en plus, ça s'est tout de suite très bien passé avec Nicolas. On rigolait les mêmes blagues. On aimait les mêmes trucs au cinéma. Donc voilà, c'est aussi une histoire humaine. C'est d'abord une histoire humaine en fait, faire une bande dessinée. Si on ne s'entend pas avec personne avec qui on travaille, on n'est que deux quand même. Hein. Donc il n'y a personne pour faire tampon.
Qui décide du trait de ces personnages ?
Alors, c'est moi, mais quand même en accord avec l'éditeur et le scénariste. C'est-à-dire que je fais des propositions. Évidemment, là, c'est une série plutôt humoristique, donc je pouvais pas avoir un trait complètement réaliste. Et puis, en plus, avec les jeux de mots, c'est un peu un hommage à Astérix aussi. Hein. Voilà, là, je pense que les gens qui aiment Astérix, c'est bon, voilà, là. Et réciproquement, j'espère. Enfin, réciproquement, c'est sûr. Mais le fait est que, voilà, donc, on propose des personnages, on propose des décors, on propose une ligne, et puis après, l'éditeur vous aiguille, vous aide. S'il est vraiment pas d'accord, ça ne se fait pas, évidemment. J'ai été recruté pour un certain trait aussi. Ça s'est bien passé.
Comment on définit le trait d'un personnage ?
Je pense qu'il y a autant de réponses que de dessinateurs. Je ne parle qu'en mon nom. J'essaie de me trouver une bonne raison de le dessiner comme ça. Et parfois, la raison, elle appartient qu'à moi. Elle n'est pas forcément évidente. Par exemple, pour Valhalla, j'ai imaginé, et je ne saurais pas vous dire pourquoi, que chaque personnage serait représentatif d'un style de musique rock. Pas forcément la musique que j'écoute en plus, mais... Je me suis dit que bah, la fille Kilt, elle serait plutôt punk, donc elle aurait des cheveux coiffés un peu comme les punks, avec une crête iroquoise. Rudolf, il a les cheveux rouges, il est presque maquillé, il est presque féminin. Il m'était inspiré par les groupes de glam rock des années 70. Bromur, le gros balèze, lui, il m'était inspiré par le bassiste de Metallica, qui a des grands, grands cheveux comme ça. Et Damar, ça aurait été plutôt un type qui aurait fait l'île de Wight, vous voyez. Plutôt une espèce de poète, barde, raconteur d'histoire, voilà. Parce qu'il me fallait une espèce d'homogénéité, c'est purement intellectuel, si on peut dire. C'est vraiment ma cuisine interne. Et il n'y a pas plus de raison que ça. En tout cas, c'est pas vraiment rattaché au récit. Et en même temps, si, parce que je me suis pas vraiment documenté sur les Vikings pour dessiner cette BD de Vikings. C'est pas une BD historique. J'ai regardé comment c'était fait un drakkar, mais c'est à peu près tout ce que j'ai fait. Voilà. En premier lieu, voilà, j'essaie de me faire mes petites histoires à l'intérieur de l'histoire, rendre les personnages un peu plus proches de moi.
C'est compliqué de dessiner des scènes de bagarre.
Quand il y a beaucoup de monde, oui. Pour ça, je ne sais pas comment Uderzo arrive à le faire tout le temps. Mais oui, quand il y a beaucoup, beaucoup de gens dans la même case, oui. Mais c'est quand même rigolo. C'est-à-dire qu'à la fin, c'est un peu pour ça qu'on fait des dessins, finalement. C'est pour faire des images, qui sont référencées à des BD comme Astérix, effectivement, mais aussi parce qu'on veut aussi se challenger, on veut aussi se lancer des défis, faire une case où il y a plein de figurants qui se tapent sur la figure. Au début, on se dit, oh là là, comment on va faire? Je me rappelle d'une scène d'exposition d'un tournoi qui est inspiré d'un film, d'ailleurs, dans le tome 2, où j'ai vraiment eu du mal, mais une fois que je l'ai faite, j'étais content. C'était la première fois que je faisais ça.
Et quand on inscrit une onomatopée signifiant un bruit ou un choc ou autre, au milieu d'un dessin, c'est pour masquer un défaut de réalisation ou c'est pour...
Vous avez détecté ça ?
Non, c'est une question. Non, c'est... Est-ce qu'on a ça en tête, c'est ça ?
Ah ouais. Ben en fait, non, j'ai pas le souvenir d'avoir essayé de masquer, sinon je l'aurais fait. si je pouvais masquer mes erreurs, je vous assure que je le ferais, mais j'ai pas encore trouvé le moyen. Non, mais en fait, quand vous mettez une grosse onomatopée, souvent, il n'y a pas vraiment de place pour le reste, en fait. C'est-à-dire que vous êtes centré sur l'action, centré sur le truc qui fait du bruit, justement. Et là, je pense que, surtout dans une BD à vocation humoristique, il faut y aller franco, il faut faire une énorme onomatopée. C'est mon point de vue.
On gagne du temps, non ?
Ah oui, on gagne du temps, mais c'est aussi comme les scènes dans les tunnels. J'adore les scènes dans les tunnels. On voit juste les yeux et les bulles. Moi, je serais capable de faire tout un album qui se passe dans un tunnel. Voilà. Avec un gros marqueur noir, hop, en une semaine, c'est plié.
Je suis sûr que ça marcherait en plus.
Faudrait essayer. Je vais en parler à mon éditeur. On va faire des tunnels.
J'essaye de consolider mon expertise en trucs.
Les trucs. C'est difficile avec Potier d'avoir des trucs parce que je reproche assez souvent de balancer pas mal de scènes de foule. C'est-à-dire que le problème avec une BD qui se passe à plusieurs endroits différents, donc le village, avec les villageois qui suivent les aventures des autres, les autres qui sont ailleurs et qui en plus se baladent, donc ils changent d'endroit. C'est que de temps en temps, vous êtes obligé de présenter le nouvel endroit avec les nouvelles personnes auxquelles ils ont affaire. Et donc là, vous avez ce qu'on appelle une scène d'exposition. Et les scènes d'exposition avec Nicolas Potier, c'est souvent une scène de marché avec des gens qui baguenaudent, cherchent sur les étalages. Bon, et donc, moi, j'essaie de trouver des figurants qui ont tous une tête différente. Ou alors, dans une foule, j'essaie de les faire avec des positions différentes aussi, des habits différents. Tout ça prend du temps parce qu'il faut les chercher. Enfin, en tout cas, ça me prend du temps à moi. Donc, si j'avais des trucs, je serais ravi que vous me les donniez après l'interview. Parce que finalement, c'est là que je vois que je suis vraiment autodidacte, en fait. Parce que je les connais pas. Je connais peu.
Il n'y a pas seulement différents lieux, mais il y a aussi des moments d'hallucination. Donc, ouais. C'est une dimension encore supplémentaire.
Tout à fait. Surtout dans le dernier album, effectivement, il y a un usage coupable de substances, effectivement, de champignons, à un moment donné. Plus une espèce de potion donnée par un obscur mage qui vit au fond d'un ravin. Oui, il y a pas mal de serpents aussi. Je sais pas si vous avez...
Ah oui, aussi, les serpents, oui.
Et les serpents, alors c'est véridique, en fait. C'est inspiré d'une histoire... c'est véridique. Une histoire, en tout cas, à propos de Saint-Patrick, qui aurait libéré Dublin, je crois, des serpents, d'une invasion de serpents. Donc on a introduit ça pour coller un petit peu le personnage de Saint-Patrick. Puisque dans le tome 3, il y a un certain Patrick.
Évangélisateur.
Voilà, qui est chargé d'évangéliser l'Irlande.
Et qui fait un pacte avec...
Avec nos amis vikings.
Pour leur céder un petit bout de territoire pour...
Voilà, en échange de leur aide et de leur aide en tant que garde du corps, puisqu'il y a des méchants druides qui veulent assassiner Patrick, il leur promet un bout de terre pour leurs villageois, pour s'implanter en Irlande.
Il y a une base historique.
Il n'y a pas vraiment de base historique, je vous dis.
C'est un gros délire.
On est allé choper... des petites infos à droite à gauche, c'est surtout Nicolas là pour le coup. Il a regardé ce qui était arrivé à Saint-Patrick en Irlande. En fait pas grand chose. On s'est aperçu qu'il n'était pas arrivé grand chose. Et donc c'était pas mal parce que justement on pouvait rajouter des aventures qui n'existaient pas, avec des druides, avec tout ce que l'Irlande véhicule comme imagerie, mais bon, on voulait pas tomber dans les trolls et les elfes, il y a des gens qui font ça bien mieux que nous. Et voilà, donc on a collé à Saint-Patrick et ses pérégrinations en Irlande.
Nous accompagnons dans la rue Marc Lechuga, le dessinateur de la série Valhalla, série d'albums de bande dessinée scénarisée par Nicolas Potier, paru aux éditions Glénat.
Est-ce que derrière, il y a un message politique ?
S'il y a un message politique, peut-être, mais c'est complètement inconscient. Quoi. C'est peut-être le propre de la politique d'être inconscient, d'ailleurs. Enfin, au moins pour une part. Mais oui, on n'a pas réfléchi à ça, mais votre interprétation est intéressante. Effectivement, peut-être que l'île est une parabole sur le monde à venir, qui va disparaître.
Ce qui est affiché, c'est une critique sur la télévision, c'est volontaire.
Ça, c'est volontaire, surtout de la part de Nicolas, c'était quelque chose qu'il voulait explorer, c'est-à-dire une forme de dépendance, et puis la dépendance à l'objet, en fait, plus que vraiment ce qui s'y passe. Et puis aussi le fait que les villageois se prennent vraiment d'intérêt pour les aventures, mais finalement sont un peu déconcernés par ce qui leur arrive, alors que les guerriers en question partent pour leur trouver une nouvelle maison quand même. Mais finalement, ils regardent la télé pendant ce temps-là. Pendant que la maison croule, ils sont terrés dans leur maison. À un moment donné, le volcan rentre vraiment en éruption. Je ne pense pas gâcher trop le suspense en le disant. Il y a des morceaux des rochers qui tombent sur le village et personne ne sort de la maison parce qu'il y a la télé. Voilà, c'est effectivement une allégorie de la dépendance. À tout ce qui est image et dépendance à l'image. Oui.
Elle ne ment pas, cette télé. Ils sont au courant de tout.
C'est vrai. C'est pas des fake news, c'est ce qui se passe vraiment. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai.
Donc, c'est pas une critique. C'est une télé qui peut informer.
Critique, c'est pas une critique du... C'est là que je trouve le point de vue intéressant, c'est que c'est pas une critique du contenu, comme ça a été fait ou ça pourrait être fait. Et d'ailleurs, c'est critiquable. On pourrait le faire. C'est plutôt une critique par rapport à la dépendance à la modernité, au progrès. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a un progrès chez soi, c'est très difficile de s'en passer. Au contraire, on devient de plus en plus accro. Voilà. Après, oui, il y a le contenu. Le contenu, bah non, le contenu, il est honnête, puisqu'ils rendent compte de ce qui se passe réellement pour leurs amis.
Si on vous proposait une version animée de cette bande dessinée, qui serait diffusée à la télévision ?
Ah ben, on fonce, bien entendu. On sera très content. Ouais. En fait, moi, je fais des BD en imaginant les personnages s'animer, donc je pense avoir en plus un dessin qui s'y prêterait, j'ai l'impression. Voilà. Oui, on foncerait.
Est-ce que vous lisez les bandes dessinées ?
Un petit peu, mais sans plus.
Sans plus, ça veut dire quoi, sans plus ?
J'ai pas forcément l'occasion. Pas forcément l'occasion d'en lire.
Qu'est-ce qu'il faut pour avoir l'occasion de lire une bande dessinée ?
Bah, faut que ça m'attire déjà, moi. Après, ça dépend. Si je vois que la couverture m'attire, bah, je vais aller voir un peu plus dedans. Et puis, je vais essayer de lire 2-3 lignes. Et puis, si je vois que ça me plaît, bah voilà, je vais la lire.
Donc, c'est plutôt le texte qui va vous attirer plus que le dessin.
Les images aussi, les illustrations, tout ça. Si je vois qu'une illustration est bien faite, bien réalisée, bah, c'est vrai que ça va attirer un peu d'autant plus. Quoi.
Qu'est-ce qu'une illustration bien faite ?
Ah, c'est dur comme question. C'est subjectif. Les goûts et les couleurs.
Ouais, c'est ça. C'est. C'est là, je sais pas trop comment répondre du coup.
Ah, répondez pas.
Ouais, voilà.
Je vous entends pas.
Qu'est-ce qui attire dans une illustration ?
Le dessin, comment il est fait ?
Qu'est-ce qu'un dessin bien fait ?
Je sais pas. Faut qu'il y ait des filles. Faut. Qu'il y ait des mecs avec des épées, faut qu'il y ait des grosses voitures, je sais pas. Ou c'est juste le trait qui va vous attirer.
Ouais, c'est ça, c'est plutôt le trait. Comme
c'est pas le sujet, c'est plutôt non, comment c'est fait.
Ouais,
en fait.
C'est ça. Ok. La façon que c'est fait.
Ils sont bien.
Et alors, ce que vous regardez en premier, c'est le dessin ou le texte ? Enfin, vous êtes attiré par le texte ?
Moi, c'est souvent l'illustration, moi, que je regarde en premier quand même. Plus que le texte. Après, je vais voir le texte, mais si l'illustration me plaît, je vais aller voir le texte par la suite.
On peut faire un test.
Si vous aimez pas, je vais pas pleurer, je promets. Ni me rouler par terre. Je vais juste bouder.
Tiens, qu'est-ce que t'en penses, toi ?
Regarde et puis...
Si, c'est vrai que les dessins sont quand même...
Moi, j'aime bien le trait. Après, c'est pas forcément un univers qui...
Oui, voilà, c'est ça. Moi, c'est
qui m'attire, c'est aussi ça, le...
Après, il y a le sujet.
Voilà, c'est plutôt ça, après... Ouais.
Quels sont les sujets qui vous intéressent plus ? Science-fiction,
non. Ça, pas du tout.
Pas du tout, non.
Plutôt tout ce qui est un peu histoire.
Ah oui, BD historique.
Bah, ouais.
Là, c'est une BD historique. Non, c'est pas.
comme les BD du genre de ton frère, un peu, là.
Oui, voilà, c'est
comment ça s'appelle, déjà
14-18, là, où je vois pas.
Ouais.
Ah, oui.
On a le dessin, on a le texte, mais on n'a pas la voix.
Ah, c'est vrai.
Et est-ce qu'on pourrait prendre, je sais pas, une planche
c'est
ou...
C'est évident, je dis, ouais, c'est vrai, tiens, il n'y a pas la voix.
C'est impossible de faire une voix, chacun peut interpréter la bulle de...
Alors, en plus, pour les gens qui nous écouteraient, c'est un peu comme le petit... Vous connaissez cette histoire par cœur, du petit garçon qui va voir un film de Tintin dans les années 60. Il va voir Tintin avec des acteurs. Hein, c'est pas les nouveaux Tintins en dessin animé. Et il sort, et il y a un monsieur qui l'interview, au micro-trottoir, un peu comme maintenant. Et le petit garçon, on lui dit, alors, est-ce que t'as aimé le film ? Il dit, ouais, j'ai bien aimé le film. Le problème, c'est que le capitaine Haddock, il a pas du tout la même voix que dans la BD. Voilà. Donc si vous demandez, je vous sors d'affaire les mecs, hein, vous...
merci.
vraiment. Hein. Oui, si, mes camarades, donc Martin et Antonin, interprètent des dialogues de Valhalla, bah, vous risquez d'imprimer chez le futur lecteur des voix qui ne sont pas celles qu'il va imaginer.
En fin de compte, chaque personne interprète ses voix comme il le sent, en fait.
Et d'ailleurs, moi, je donne un faisceau d'informations avec mes dessins, en fait. Quand on dessine une BD, on donne des informations. Après, on met de l'artistique si on a envie, si on peut. Mais on donne des informations, et avec ces informations, les gens, ben, il faut une sorte de synthèse, je crois. C'est ça qui est un peu magique avec la bande dessinée. Et c'est aussi pour ça que ça marche pas si bien avec le numérique, c'est qu'il y a quelque chose d'un peu mystérieux qui se passe avec le fait que ce soit séquentiel, le fait qu'il y ait des dessins, le fait qu'un dessinateur mette beaucoup de ce qu'il a de son univers, de ses souvenirs dedans. C'est que avec toutes ces infos, et la manière dont est construite la BD, y a une voix qui va se... Un peu comme quand on lit un livre, d'ailleurs. Hein. Quand on lit un livre, les personnages prennent corps. Ben là, c'est pareil.
Bon, là, il vous a sauvé. Ouais. Vous allez essayer de le sauver. Parce que si cette bande dessinée était adaptée à la télévision, donc là, il y aura des voix.
On sera bien obligé.
Il y a une contradiction.
Absolument. Là, je ne sais plus quoi dire. Là, vraiment, je suis presque comme un homme politique à qui on vient de prendre les... qu'on vient de prendre les mains dans un pot de confiture, ben oui, en même temps, on serait bien obligé, peut-être que ce serait pas la même histoire, je ne sais pas, ouais, effectivement, c'est quelque chose à laquelle j'avais pas pensé.
Et là, potentiellement, il vient de vous empêcher d'être embauché pour la version animée.
Vous bossez chez Groland, c'est ça, en fait ?
Pas du tout.
D'accord. Ben oui, je viens de leur empêcher, ces deux jeunes, d'obtenir un emploi. Voilà. Deux de plus. Vous n'avez pas fini vos études,
si.
Peut-être. Si, vous avez fini vos
études.
Enfin,
moi, si.
Mais je suis sûr que vous ne vouliez pas être doubleur pour le dessin animé. C'était, vous aviez d'autres ambitions dans la vie.
C'est pas
totalement
du tout ça.
Voilà. Ben, en fait, je les ai aidés à ne pas se tromper d'orientation. Orientation pourrie dans laquelle vous vouliez les précipiter. Hein. De rien, les jeunes, ça m'a fait plaisir.
Merci.
Ce que je trouve vraiment encore plus dommage, c'est quand on fait un film avec des vrais acteurs d'une bande dessinée qui n'est pas réaliste. Exemple, Astérix. Je trouve que les dessins animés d'Astérix, à peu près tous, sont en général assez bons parce que on n'élimine pas le talent du Derzo. C'est-à-dire qu'il y a Goscinny, évidemment, qui est un monstre, qui est vraiment un des dieux de la bande dessinée. Mais il y a quand même eu Derzo, si Derzo n'était pas le dessinateur qu'il est. Les personnages d'Astérix ne seraient pas aussi intéressants, drôles, etc. Et mettre des acteurs dans la peau des personnages, je trouve que c'est toujours dommage. Parce qu'on casse une partie de la magie, en fait. Et ça rejoint, l'histoire de la voix aussi.
Quand on a plusieurs activités, comment ça se passe ? Tous vos week-ends sont consacrés au dessin ?
Quasiment. J'ai une famille aussi, donc j'essaie de m'occuper de mes enfants un petit peu, de ma vie de famille.
Oui.
J'ai une épouse également, j'essaie d'être avec elle aussi. Mais oui, je m'organise pour dessiner un peu au milieu d'eux. Là. C'était pas le cas jusqu'à présent, je m'isolais un peu dans mon bureau, mais là je me suis organisé différemment pour être avec eux. Puis bon, finalement on fait des coupures et puis c'est un peu... J'aimerais vous dire que c'est organisé, mais ça l'est pas du tout en fait. C'est sur mon temps de sommeil, c'est quand j'ai le temps, c'est où j'ai le temps, j'ai tout est un peu portatif, un peu mobile, et je dessine comme je peux. Dans l'état de fatigue qui est le mien au moment où je dessine. Donc ça m'arrive pas mal de corriger, je corrige beaucoup, je recommence beaucoup, parce que je suis pas toujours en forme, bon, comme tout le monde, hein, mais forcément avec deux activités, on a des réserves qui s'épuisent un peu plus vite.
Au bout de combien de temps, d'une manière un peu automatique, le trait, le personnage est dessiné?
Je pense qu'il faut un album en fait. Moi en tout cas, il me faut un album pour. Il m'a fallu un album à chaque fois pour vraiment commencer à maîtriser un personnage et plus me poser de questions sur la manière de le dessiner sous tel ou tel angle en fait. Voilà. Un album, c'est raisonnable.
Il faut qu'on puisse le reconnaître en tournant autour de lui.
Tout à fait, ouais. Alors là aussi, on peut tricher parce que on représente jamais un personnage dans un album complètement en 3D, c'est-à-dire qu'on le représente rarement complètement de dos, il est toujours en demi-profil ou ce genre de choses. Ou alors, s'il est vraiment de dos, on en représente qu'une partie. Mais ce qui est important, c'est qu'il ait des traits marquants et marqués très, très, très tôt. C'est-à-dire le fait que j'ai un personnage qui a les cheveux rouges, par exemple, ça va aider à le reconnaître, même si au début, c'est un peu balbutiant et que je ne sais pas encore très, très bien le dessiner. Parce qu'en fait, ce qui me manque par rapport à d'autres, c'est du temps, en fait. Donc, j'ai pas le temps de dessiner un personnage beaucoup de fois, de faire ce qu'on appelle des turnarounds, c'est-à-dire dessiner le personnage sous tous les angles, dans toutes les positions, me changer éventuellement ses vêtements, etc. Ça, j'ai pas le temps de le faire, donc il faut que je fonce. Et j'apprends un peu à le dessiner au moment de l'album. Il y a plein de gens qui vont hurler en entendant ça, dire « Ah, c'est pas professionnel et tout », mais je suis pas professionnel, justement, c'est ça le truc.
Bon, de toute façon, on a vu qu'on avait du mal à définir ce que c'était qu'un trait parfait, donc...
Oui, tout à fait, ouais. Et puis on compte aussi sur le fait que le lecteur va être porté par l'histoire, donc c'est pour ça que le scénario est quand même très important, et qui va admettre un certain nombre d'incohérences, pas forcément de dessin, mais on va bénéficier d'une forme d'indulgence tacite du lecteur. Il va admettre que le personnage change d'un album à l'autre, par exemple. Il n'y a qu'à voir les Lucky Luke qui ne sont pas exactement pareils au début, et puis maintenant. Pour tout maintenant, d'ailleurs.
C'est pas le même dessinateur.
Voilà, c'est ce que je voulais dire. Astérix, c'est pareil. Ou les Schtroumpfs, c'est pareil. Sans parler de Gaston ou Spirou. C'est sympa, cette petite promenade.
Ah, sous la pluie.
Les bourrasques.
J'ai perdu ma question.
Vous allez la retrouver.
Oui.
Je suis sûr.
Je sais plus de quoi on parlait.
On parlait de savoir dessiner un personnage. Comment dessiner un personnage? Écoutez, j'aurais tendance à vous dire que je fais comme je peux. Et par manque de temps et par obligation de délai, j'essaie de faire au mieux, et puis quand ça dérape vraiment, au bout d'un certain temps, je m'aperçois que le personnage a une meilleure tête à la page 4, et ben je refais toutes les pages, je refais pas toutes les pages, mais toutes les têtes des 3 pages d'avant, voilà. C'est un peu mon artisanat, ma cuisine à moi. Hop, attention.
Vous me dites, ouais, j'ai pas trop de temps, mais le temps, vous pourriez le prendre, en étant à la fois scénariste et dessinateur.
Ah, j'adorerais, c'est un de mes objectifs, c'est de pouvoir raconter mes propres histoires. Mais je n'ose y croire, si vous voulez. J'ai déjà réussi à faire des albums et à trouver des gens suffisamment fous pour m'éditer. Bon, là, maintenant, je commence à passer quand même pour un dessinateur un peu sérieux. Mais au début, vraiment, j'étais très étonné de me retrouver dans le bureau d'un éditeur. Donc là, si en plus on me signe sur la base d'un scénario, je serais vraiment aux anges, je serais vraiment très content. Et alors, pour trouver le temps, je pense que le temps, il faut se le donner. Il faut essayer de faire au mieux pour en vivre, c'est pas vraiment pas facile.
C'est pas votre propos, vous avez un métier.
Oui, c'est vrai, c'est pas mon propos, j'ai un métier. Voilà. Mais j'ai pas de temps. C'est-à-dire que voilà, on pourrait dire oui, c'est vrai, il vit bien puisqu'il a un métier, salarié, il travaille, c'est bien. Puis en même temps, il a sa passion. Il faudrait demander ce qu'en pensent mes enfants et ma femme, par exemple.
Ah, il faut divorcer, renier ses enfants.
C'est pas d'actualité.
Ça veut dire que votre passion a des limites.
Ah oui, oui, c'est normal. Oui, oui. Elle a les limites que mon environnement m'impose. Un peu comme maintenant, vous voyez, sujet de l'environnement.
Merci à Marc Lechuga, le dessinateur de la série Valhalla, série d'albums de bande dessinée scénarisée par Nicolas Potier, paru aux éditions Glénat, et merci à
Martin, Antonin,
pour leur libre participation à ce programme.
Qu'est-ce que vous retenez de cette aventure d'interview en marchant dans la rue ?
Écoutez, je suis vraiment content de vous avoir rencontré. J'appréhendais un peu parce que, comme je vous l'ai dit, c'est ma première interview. Et puis le temps s'y prêtait pas, mais en fait, les questions, la rencontre avec nos deux potentiels lecteurs, ça m'a bien fait passer le temps. C'était très agréable. Vous avez trouvé le moyen, pour ma première interview, de me mettre dans la difficulté avec cette histoire de voix de dessin animé. Donc je retiens ça, mais malgré tout, c'était très agréable.